Tous les jours à 12h15 et 19h15,
Je vous dis pas,
votre magazine d'information locale.
Aux origines du Nil, dolmen et menhir de l'île Dieu, c'est un livre et une conférence que vous propose Annabelle Chauvito-Lacoste, guide conférencière à la mairie de l'île Dieu et spécialiste en archéologie insulaire. Bonjour Annabelle.
Bonjour.
En quelle période l'île Dieu est devenue une île ?
Alors, bien sûr, pour l'instant, on n'a que des suppositions, puisque différentes analyses ont été faites, notamment en Bretagne, sur les évolutions des niveaux marins. Mais on suppose qu'aux alentours de 5000 ans avant Jésus-Christ, déjà, cette île était déjà une île, et sans doute depuis quelques milliers d'années. Donc, on table l'insularisation de l'île définitive entre, on va dire, 9000 avant et 7000 avant.
Car avant, c'était souvent une presqu'île et des fois une île, c'est bien ça ?
Tout à fait. Si on remonte aux époques glaciaires, et notamment à l'époque paléolithique, il faut imaginer que pendant les grandes périodes de rafraîchissement de la planète, eh bien, la mer se trouvait très loin de l'île Dieu. Elle a été jusqu'à 150 km au large de l'île Dieu. Donc l'île était complètement rattachée au continent.
Et des fois, elle était même submergée, non ?
Oui, oui, mais là, c'est des époques encore beaucoup plus anciennes, hein, bien avant que l'homme ne soit sur la planète.
L'île est habitée depuis 6000 ans ?
Alors, on a des traces d'une occupation pérenne sur l'île aux environs de 5000 ans avant Jésus-Christ. Et par contre, on a des traces de passage de groupes d'hommes sur l'île dès le paléolithique, donc on peut remonter aux alentours de 60 000 ans avant Jésus-Christ.
Et quel contact avaient les habitants de l'île Dieu du néolithique avec le continent ?
Alors, ils en avaient sans doute beaucoup, hein, puisqu'à cette époque-là, le seul moyen de venir à l'île Dieu, c'était en bateau, hein, au néolithique en tout cas moyen, à l'époque des dolmens et des menhirs. Et donc, ils ont ramené énormément de choses du continent, hein, nos premiers îlets, notamment des croyances, hein, d'où cette construction de dolmens sur l'île. Une architecture aussi, puisque les dolmens insulaires ont vraiment une architecture qui a été calquée pour au moins l'un d'entre eux sur ceux que l'on retrouve autour de l'embouchure de la Loire. Donc voilà, il devait y avoir une connivence technique entre notre population insulaire et celle du continent. Et puis aussi des objets, puisque sur l'île, on n'a pas d'affleurement de silex comme ça naturel. On va avoir seulement des galets de silex qui vont venir s'échouer sur les plages. Mais du coup, c'est du silex de très mauvaise qualité. Donc pour faire des armes importantes comme des haches ou des choses comme ça, il fallait pouvoir trouver du silex de meilleure qualité. Donc aller sur le continent et là, aller récupérer donc, ces objets sur le continent, sans doute sous forme de troc, de choses comme ça. Et puis ensuite, on revenait sur l'île Dieu sans problème. Hein. Les liaisons maritimes à l'époque ne posaient aucun problème, a priori.
Ils savaient faire des bateaux ?
Ils savaient faire des bateaux. Alors, on n'a pas en archéologie, pour l'instant, découvert de bateaux en contexte maritime. On en a en contexte fluviaux, mais aucun en contexte maritime, puisque le bois ne se conserve pas du tout, à moins que s'il est vraiment dans un milieu humide. Mais on sait qu'on savait naviguer à cette époque, puisqu'il y a beaucoup d'îles qui vont être colonisées, notamment l'Angleterre va être recolonisée au néolithique moyen. Beaucoup, beaucoup d'hommes et des troupeaux vont traverser la mer. Donc, la Manche, notamment, ne posait aucun problème pour pouvoir naviguer dessus. Hein. On savait naviguer sur la haute mer sans problème.
Ils étaient déjà assez intelligents et assez évolués.
Ah ben oui, il faut les imaginer comme nous, sauf qu'ils ne connaissent pas encore les métaux, mais oui, oui, ils étaient quand même très très réfléchis, parce qu'il fallait bien pouvoir se débrouiller avec ce qu'on avait autour de nous.
Les monuments mégalithiques, dolmens et menhirs sont nombreux sur l'île Dieu, que nous apprennent-ils ?
Alors, ils sont assez nombreux pour un petit territoire comme le nôtre. Hein. Ils nous apprennent qu'on a eu une occupation sur l'île sans doute très ancienne et aussi très longue, et ces hommes qui habitaient à l'île Dieu avaient des croyances assez significatives, toutes particulières, et un petit peu comme celles qu'on va retrouver sur le continent, mais avec quelques petites différences.
Et quelles différences ?
Alors justement, par rapport à l'architecture des monuments, on a donc seulement deux endroits au monde où on va trouver, par exemple, le dolmen de la Planche à Puard, il a une forme de croix. Et le seul autre endroit donc, où on va avoir ce type de dolmen, c'est autour de l'embouchure de la Loire, donc autour de Pornic et Saint-Nazaire. Donc on avait vraiment des gens qui allaient à l'embouchure de la Loire, qui habitaient l'île Dieu et qui ont ramené ce type d'architecture. Et on avait aussi, puisque les dolmens servaient à enterrer les morts, on avait aussi une manière toute particulière d'aménager l'intérieur des dolmens pour recevoir ces morts, puisque quand les fouilles ont été réalisées, notamment au dolmen de la Planche à Puard, les fouilles de l'époque, donc c'était il y a un peu plus de 100 ans, ont fait remarquer que les squelettes en fait étaient ordonnés dans ce monument, c'est-à-dire que dans chaque chambre funéraire, les préhistoriques, les néolithiques de l'époque ont pris le soin dans chaque chambre, de ranger, par exemple, les grands os avec les grands os, les petits os avec les petits os, les crânes avec les crânes. Et ensuite, une fois qu'une chambre funéraire était pleine de ces ossements, on rajoutait un dallage de pierre sur ces ossements pour amener d'autres ossements sur ce dallage. Donc, on avait comme ça, dans le dolmen de la planche à puer, quatre épaisseurs d'ossements séparés par des dallages. Et sur chaque épaisseur, ces ossements étaient très bien ordonnés. Et ça, c'est assez unique au monde, puisqu'il n'y a que le dolmen de la planche à puer qui a montré ce système d'organisation des défunts.
Et c'était de la même famille ou on ne le sait pas ?
Alors ça, malheureusement, à mon grand regret, on pourrait le savoir si les squelettes qui étaient là avaient été conservés, mais malheureusement, ce n'est pas le cas, puisque les fouilles du dolmen de la planche à puer ont été faites en 1895. Les os ont été déposés au musée d'Aubray à Nantes quelques années plus tard. Et malheureusement, depuis, ils ont disparu, puisque au début du XXe siècle, on ne savait pas à l'époque qu'un jour, on trouverait une technique pour pouvoir dater ces ossements et pouvoir faire des analyses ADN et tout ça. Donc, pour eux, c'était quelque chose de pas opportun de conserver. Donc, du coup, ils ont été balancés, on ne sait où, mais en tout cas, ils ont disparu. Donc ça, c'est vraiment un gros regret que j'ai, c'est de ne pas pouvoir faire des analyses dessus et puis en savoir plus sur ces défunts.
Quatre dolmens sur l'île-Dieu ont-ils d'autres utilités ?
Alors, à part enterrer les défunts, oui, il y avait une utilité clairement symbolique, puisque nos trois dolmens qui sont sur la côte nord-ois, donc le dolmen des Petits Fradets, la planche à puer et les Tabernaudes, il faut imaginer que quand ils ont été construits, ils étaient recouverts d'un grand tumulus, donc d'une grande masse de terre et de pierre qui était clairement visible depuis la mer. Donc ça avait un impact visuel pour les navigateurs et cet impact visuel, il était voulu.
C'était donc, peut-être une sorte de phare, non ?
Ça servait sûrement de point d'amarre, mais ça servait sûrement à montrer que voilà, ici sur l'île, on savait faire des monuments impressionnants et donc des tombes monumentales. Donc c'était un petit peu voilà, pour en jeter plein les yeux, je pense, pour l'époque.
Par contre, huit menhirs, on ne connaît pas leur signification ?
Alors, les menhirs, c'est quelque chose d'assez énigmatique. Hein, et je pense pas qu'on trouvera un jour leur signification. On ne sait pas pourquoi, au néolithique, les hommes dressaient les pierres, parfois des pierres de plusieurs tonnes. Hein. Il faut imaginer que juste derrière le fort de Pierre Levée, autrefois, on avait un menhir qui faisait 7,30 m de hauteur.
Il a été découpé, lui.
Ouais, il était sur un point haut, il se voyait de loin, il se voyait même probablement depuis le continent, hein, puisque si l'île était assez dégagée à l'époque, on pouvait le voir de très loin. Après, quelle était leur signification ? Là aussi, il devait y avoir un impact visuel assez important. Mais si on s'enquiquinait à soulever des tonnes de pierres et les ériger comme ça sur la terre, ça avait bien un intérêt quelconque. Et aujourd'hui, aucun préhistorien n'est capable d'affirmer vraiment les choses. Il y a plein d'hypothèses, évidemment. Mais,
quelle hypothèse ?
Alors, l'hypothèse, ce serait des croyances au niveau du soleil, des pierres érigées pour marquer un centre important au niveau cultuel, etc., etc. On ne sait pas.
Et on le saura peut-être un jour ou pas ?
À moins d'une découverte impressionnante et incroyable, je pense que ça risque d'être assez difficile de vraiment prouver la signification de ces pierres érigées. Je sais pas, j'aimerais bien, mais ça m'étonnerait.
Peut-on parler maintenant des coffres, par exemple, du Chiron Lazare ?
Oui, alors en fait, quand Marcel Baudouin est venu sur l'île au début du XXe siècle, dans les années 1904, 1905, 1906 et 1907,
Marcel Baudouin,
c'était un préhistorien vendéen qui a fait beaucoup de travaux en Vendée, mais bon, c'était l'archéologue de l'époque, hein, donc il faisait pas trop ça de manière scientifique, hein, même bien au contraire. Mais quoi qu'il en soit, il avait l'avantage, cet homme, d'avoir fait des travaux en archéologie avant l'heure. Donc, il a fait énormément de travaux sur l'île-Dieu. Il a notamment pris des photos des sites préhistoriques importants de l'île, dont certains ont disparu depuis. Et ces photos, elles sont conservées aujourd'hui au Sable d'Olonne et elles ont été faites sur plaques de verre. Donc, c'est vraiment un matériau qui permet la conservation de ces clichés encore, j'espère, pour des centaines d'années. Et donc, sur ces clichés et puis les différents rapports qu'il a écrits pendant ses séjours à l'île-Dieu, il nous fait la mention de coffres qu'il a trouvés sur l'île-Dieu. Donc, lui, il appelle ça des cystes. On peut trouver dans la littérature ce mot également, de cyste. Donc une cyste, c'était tout simplement un coffre funéraire donc, où on enterrait les défunts, donc, soit entiers, soit après les avoir brûlés. donc incinérés. Et donc, ces coffres, ils étaient très simplement confectionnés avec simplement des grandes dalles en pierre que l'on enterrait dans le sable. Et puis, on faisait comme une tombe actuelle, un petit peu plus petite quand même, où on déposait les défunts. Et ce type de coffre a été énormément mis en place à différentes époques. Au néolithique, on sait qu'il y en a, à l'âge du bronze, à l'âge du fer. Donc malheureusement, quand Marcel Baudouin a fait ses fouilles, il n'a pas à l'époque retrouvé d'ossements dedans ou d'indices permettant de les dater, ces coffres. Quoi qu'il en soit, on en a un petit peu partout sur l'île, énormément entre le château et la pointe du Châtelet, et puis d'autres dans la région des Broches, là-bas, au Tabernaud et tout ça. Donc j'espère un jour pouvoir en trouver un, là, avec toutes les nouvelles techniques de recherche archéologique que l'on a. Et je pense qu'on pourrait plus facilement les documenter, ces cistes, si on en trouvait une aujourd'hui.
Par contre, comment on a nommé ces coffres et pourquoi Chiron-Lazare, par exemple ?
Alors, c'est tout simplement, quand on parle de la ciste ou du coffre du Chiron-Lazare, c'est le nom du lieu dit où ce coffre a été trouvé. Donc, on
tout
a
simplement.
Le coffre de Barbe, des Tabernaudes, etc. Donc, c'est en fonction du lieu où Marcel Baudouin les a trouvés au début du XXe siècle.
Il y a aussi des monuments indifférenciés. Qu'est-ce qu'un monument indifférencié ?
Alors, ce qu'on appelle un monument indifférencié, c'est un monument dont on ne sait pas quelle était son utilisation ou son utilité.
Par exemple, le dolmen du Gâtine ?
Ouais. Alors, le dolmen de Gâtine, c'est en fait vraiment des mégalithes, des pierres qui nous posent beaucoup de questions, puisque Marcel Baudouin, au début du XXe siècle, a identifié ce site comme étant un dolmen. Et aujourd'hui, on n'est pas trop d'accord avec lui. On pense plutôt que c'est un amas rocheux assez spectaculaire qui a été gravé de cupules. Donc, à une autre époque que l'époque des dolmens, puisque on ne sait pas vraiment, mais on ne pense pas que les cupules aient été gravées en même temps que les dolmens. Donc, à une époque différente. Et puis, Baudouin, quand il est arrivé là, il a trouvé ces pierres drôlement intéressantes. Il s'est dit, c'est un dolmen qui s'est effondré. Il a essayé de le remonter. Et puis, ça s'est effondré à nouveau. Donc, dans les textes qu'il a écrits, lui, il mentionne ça comme étant un dolmen. Mais aujourd'hui, on ne pense pas du tout que c'était un dolmen.
Et on pense que c'est quoi ?
Simplement une pierre à cupules, une pierre gravée.
Par contre, on n'en sait plus sur le domaine du Petit Fradet.
Alors, le dolmen de Petit Fradet, oui, c'est aussi un site très, très intéressant. Donc, c'est un dolmen... Pour l'instant, on pense que c'est un dolmen à couloir, donc un dolmen avec simplement un couloir qui permettait d'accéder à une chambre funéraire. Mais si un jour, on pouvait faire une fouille sur ce site, on se rendrait peut-être compte que finalement, il n'est pas vraiment un couloir, ce dolmen, mais que c'est peut-être comme le dolmen de la planche à puire, un dolmen en forme de croix, ce qu'on appelle donc un dolmen transepté. Et lui, il a conservé une partie de son tumulus, donc de cette grosse butte qui l'englobait. Elle s'est érodée, bien sûr, avec le temps. Une grande partie a disparu. Mais si on regarde au sol, on voit encore des pierres et de la terre qui sont les vestiges de ce tumulus.
Par contre, le domaine du Petit Fradet, actuellement, il est fermé.
Tout à fait. Alors, il est pour l'instant fermé au public, puisque malheureusement, sa dalle de couverture s'est fissurée à cause de différents facteurs, notamment de l'érosion naturelle. Il y a eu un petit tremblement de terre à ce moment-là entre l'Île-Dieu et le continent. Et puis, bien sûr, la fréquentation touristique a dû aussi jouer en sa défaveur. Et donc là, on reçoit les monuments historiques et on va voir avec eux pour que la mairie de l'Île-Dieu puisse réfléchir avec donc, les monuments historiques et le service régional d'archéologie à une future restauration de ce monument qui est très, très important dans le patrimoine insulaire.
Annabelle, peux-tu nous parler de l'allée couverte des Tabernaudes ?
Alors, l'allée couverte des Tabernaudes, elle se situe sur la route des Broches.
C'est un site aussi important, non, pour l'île-lieu ?
Oui, très important. C'est aussi un dolmen, mais c'est vraiment l'aboutissement de l'architecture dolménique. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle une allée couverte, c'est-à-dire que c'est un grand couloir, une grande allée qui était couverte, avec également un tumulus qui l'englobait. Et à l'intérieur, on y déposait les morts. Et donc, cette allée couverte, c'est la seule allée couverte connue en France dans le sud de la Loire. Donc, on a la chance d'avoir comme ça une allée couverte chez nous, à l'Île-Dieu, alors que dans certains endroits, par exemple de la Loire Atlantique ou après de la Gironde, ils n'en ont pas.
Et où elle se trouve, cette allée couverte ?
Donc l'allée couverte des Tabernaudes se trouve sur la route des Broches. Quand vous partez de Cadouère vers la fosse des Broches, avant d'arriver à la fosse des Broches, sur votre droite, vous avez un petit plot indiquant cette allée couverte. Mais pour aller la voir, il faut prendre un petit chemin, un tout petit sentier qui vous y amène directement. Et elle se trouve, cette allée, entre deux propriétés bâties.
Annabelle, avant de se dire au revoir, quel était le rapport des hommes à la mer à cette époque ?
Alors la mer, bien sûr, porte avait une part très très importante pour ces néolithiques qui habitaient sur l'île-Dieu, puisque bien sûr la mer les entourait. Et donc, on a remarqué que cette mer faisait partie intégrante de leur vie, puisque dans le dolmen de la planche à poire, par exemple, des poids de filets ont été retrouvés avec les défunts. Donc, ce qui prouve qu'il y a 5000 ans avant Jésus-Christ, on pêchait déjà au filet les poissons. Ont été retrouvés également par les fouilleurs donc, du 19e siècle des dents de cachalot dans ce dolmen. Donc, on ne devait pas pêcher le cachalot, ça c'est certain, mais il y a dû y avoir un cachalot qui est venu s'échouer. Et puis, on a récupéré quelques dents en guise sans doute d'amulettes qu'on a enterrées également avec les défunts. Et puis, sur l'île, on retrouve aussi pas mal de ce qu'on appelle des dépôts coquillés. Donc, c'est des endroits où les hommes ont mangé des coquillages et ils les ont enterrés intentionnellement dans le sol. Donc, on en a un notamment devant le dolmen de la planche à poire, encore une fois, mais aussi à côté du menhir, du grand menhir des Tabernaudes. Et puis, on en a un petit peu partout, comme ça, sur l'île. Donc, bien sûr, ils consommaient les mollusques qui habitaient là, sur l'estran. Et ça faisait partie sans doute intégrante de leur nourriture quotidienne.
Annabelle, quelque chose à rajouter avant de se dire au revoir?
Ben, venez être nombreux à mes conférences, hein, il ne faut pas hésiter, l'entrée est libre et gratuite, donc venez écouter un petit peu ce que j'ai à vous raconter sur ce passé très ancien de l'île-Dieu.
Les prochaines conférences auront lieu le mercredi 29 avril à 18h30 au casino, ou bien le mercredi 15 juillet à 20h30 aussi au casino, et le mercredi 26 août à 20h30, il y a aussi un livre disponible, Annabelle.
Tout à fait. Oui, ce livre, en fait, reprend mon mémoire de master que j'ai fait, bien sûr, sur le thème du mégalithisme à l'île-Dieu. Et c'est le groupe Vendéen d'études préhistoriques, donc qui est une association qui me l'a publié. Et donc, il sera en vente après mes conférences et à l'office de tourisme au prix de 15 euros. Et l'intégralité donc, de cette somme ira à l'association.
Et on saura tout sur les dolmens et les menhirs de l'île-Dieu grâce à ce livre et à tes conférences.
Tout à fait. Alors, les conférences vont bien sûr développer ce que je viens d'aborder à l'instant. Mais en plus, il y aura une petite partie sur l'actualité archéologique sur l'île. Donc quels travaux sont en cours, quelles découvertes on a fait cette année. Donc ça vous permettra de rester un petit peu informé sur toute cette actualité.
On va rappeler les dates avant de se dire au revoir, Annabelle, des conférences. Le mercredi 29 avril à 18h30, le mercredi 15 juillet à 20h30 ou le mercredi 26 août aussi à 20h30 au casino pour Aux origines du Nil, dolmen et menhir de l'île-Dieu. À très bientôt, Annabelle.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
On se retrouve dès lundi dans Je vous dis pas, et comme chaque lundi, c'est spécial musique. On accueillera Guy pour nous présenter le concert de Christine Elia qui aura lieu sur l'île-Dieu le 1er mai prochain. Et ensuite, on accueillera Christine Elia en interview. Bon week-end, bye bye.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale. Retrouvez toutes les émissions sur neptunefm.com.